franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les vedettes de Cherbourg en route vers Israël.
Il a fallu cette affaire pour que le monde entier sache qu'on pouvait entrer et sortir du port de Cherbourg à toute heure de jour et de marée.
Eh oui, Noël 1969, 5 patrouilleurs rapides, achetés à prix d'or par Tel Aviv, mais mis sous embargo par la France depuis la guerre de 1967, s'échappent du port de Cherbourg, nuitamment, c'est sûr. Légalement, on ne sait pas trop. Dès qu'elle est connue, l'affaire provoque un grand ramdam et une colère grandiose au gouvernement de Michel Debré. Et ça ne se serait pas passé comme ça au temps du général. Justement, si, du moins jusqu'en 1967. La France, en effet, avait été le premier fournisseur d'armes des Israéliens. Et les vedettes de Cherbourg ne constituaient que l'aile maritime d'un dispositif autrement vaste. Leur rapt. Par ceux qui les avaient achetés et attendaient vainement la livraison, peut paraître relevé de la chronique cocasse. En réalité, cette affaire permet à Paris de clore le chapitre de la grande amitié franco-israélienne. L'opinion s'y refuse encore pour le moment, mais déjà nos exportateurs passent avec armes et bagages au marché arabe. Les Israéliens réagissent, eux, en se jetant dans les bras des Américains et en développant leur production propre. Aujourd'hui, ils menacent la quatrième place que garde la France sur le marché de l'exportation d'armes. Les vedettes de Cherbourg, c'est une page qui se tourne et un dossier qui passionne depuis sa jeunesse, qui n'est pas lointaine. Justin Le Carpentier, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes un jeune historien cherbourgeois à table, oui. Auprès de votre père.
Oui, mon père a travaillé dans le chantier qui a construit ces fameuses vedettes et il m'en a beaucoup parlé.
À Cherbourg, on a gardé la mémoire de l'affaire. La France entière va s'en souvenir puisque ce soir, à 23h15, sur France 3, un documentaire signé Olivier Brunet, auquel vous participez, Justin Le Carpentier. C'est justice puisque à l'Encre de Marine, une maison d'édition aux Normandes, oui. Vous avez publié un livre sur l'affaire des vedettes de Cherbourg. Alors, je commençais en disant que la France fournit Israël depuis la création de l'État. L'aviation de la guerre de 67, elle est à 90% de fabrication française. Mais la marine ?
Alors, la marine, c'est le parent pauvre de l'État d'Israël. À cette époque-là, il est composé de quelques vieux bâtiments que Israël a pu racheter auprès des Britanniques, des Américains. Des bâtiments qui sont souvent inadaptés à leur mission.
Alors, on peut acheter où quand on est israélien ? On ne peut pas acheter aux États-Unis ?
Alors, c'est très
à cette époque-là.
À cette époque-là, c'est très difficile d'acheter pour les Israéliens. Les États-Unis les ont placés sous embargo en 1956.
La crise de Suez.
Ils ne peuvent pas acheter aux pays du pacte de Varsovie puisqu'ils sont plutôt pro-occidentaux.
C'est l'URSS, c'est les pays du pacte de Varsovie qui fournissent la marine égyptienne. En
oui, c'est ça.
Alors, on peut acheter en Allemagne, c'est un peu étonnant, mais les contacts deviennent de plus en plus étroits entre Allemands et Israéliens. On peut aussi acheter en France. Alors, les vedettes, on a tenté de les fabriquer sur des chantiers allemands à Brême, et pour toutes sortes de raisons que vous tentez de démêler, on a renoncé, et on est donc allé, je parle de Tel Aviv,
ils sont donc
chez vous, à Cherbourg.
Retournés à Cherbourg. Ils ont donc passé commande en 65 auprès des chantiers Félix Amiot, dont le nom officiel, c'est les constructions mécaniques de Normandie.
Alors Félix Amiot, vous consacrez votre thèse à Félix Amiot, c'est un septuagénaire vigoureux dans cette fin des années 60.
Oui, oui. Donc c'est un industriel cherbourgeois qui a commencé sa carrière dans la région parisienne en construisant des avions à Colombes.
Ça remonte à avant la Première Guerre mondiale.
Voilà, il a construit son premier avion en 1913 à l'âge de 18 ans. Et après, au cours de la Première Guerre mondiale, il a été placé à la tête d'une usine d'aviation.
C'est un mécanicien. Mais alors, il ne peut plus faire d'avion, pour des raisons qu'on ne va pas non plus tenter de démêler, après la Deuxième Guerre mondiale. Et il va reconvertir une usine qu'il avait chez vous, à Cherbourg, usine de construction navale.
C'est ça. Il va donc commencer par construire des chalutiers et puis après des petits navires de guerre en bois. Et enfin, à partir des années 60, il va commencer à construire des navires de guerre en coque acier, donc, dont les vedettes.
Alors, le marché des vedettes, pour lui, 12 vedettes, c'est providentiel au milieu des années 60.
Oui, le chantier avait une santé précaire et c'est le plus gros marché qu'il reçoit. Et ça va lui permettre d'assurer pendant 3 ans la vie de son chantier.
Alors ces vedettes, on les appelle dans la crise qui va commencer, qu'on va raconter tout à l'heure, des patrouilleurs, des canonnières. Qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est des navires de faible tonnage, hein, ils pèsent 200 tonnes. C'est des navires qui sont extrêmement rapides, ils vont à plus de 40 nœuds. Et c'est des navires qui sont faits pour être puissamment armés et pour répliquer et faire des attaques très rapides.
Alors les Israéliens, ils ont les moyens, ils ont choisi de greffer toutes sortes de matériel d'origine diverse, peu importe le prix, pourvu que ce soit rapide et efficace.
Voilà, pour Israël, il lui faut le meilleur de ce qu'il se fait dans le monde. Donc on va acheter les coques, donc le navire à la France. On va l'équiper de canons italiens, de missiles construits par Israël.
C'est des missiles mer-mer.
Oui, voilà, ouais. Les missiles Gabriel, que Israël développe en secret avec la France, les entreprises françaises.
Il y a beaucoup de secrets d'ailleurs dans cette affaire. On ne parle pas beaucoup pendant la période de la commande et même pendant la période de la construction de ces vedettes qui sont là, visibles, et sont à Cherbourg, au vu et au sud de tout le monde.
Oui, tout le monde à Cherbourg est au courant de la construction de ces navires, mais cela ne quitte pas Cherbourg.
Alors comment ça se fait ? Il y a par exemple des marins israéliens qui sont installés à Cherbourg ?
Oui, et en permanence, la mission israélienne est installée pour 4 ans. Il y a à peu près, à la fin du marché, il y a 200 Israéliens qui sont installés avec leurs familles. Les enfants vont à l'école dans les écoles françaises, ils participent à la vie locale.
Et les journalistes ne disent rien. Enfin, vous nous parlerez tout à l'heure des spécificités des médias de votre bonne ville, Justin le Carpentier. Tout va très bien. C'est formidable pour M. Amiot et pour Cherbourg et pour Israël. La première vedette est lancée en avril 67. Et patatras, c'est la guerre des six jours au printemps de la même année. Israël, qui se sent agressé par les menaces de plus en plus pressantes formulées par Nasser et ses alliés, attaque en premier, déclare la guerre, et ça n'est pas du goût du général de Gaulle, qui, après avoir laissé se multiplier les livraisons en urgence au début de 1967, prononce un premier embargo à la veille de la guerre, embargo qu'il explique dans cette fameuse conférence de presse.
L'établissement entre les deux guerres mondiales d'un foyer sioniste en Palestine, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël, soulevait un certain nombre d'appréhensions. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. À la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître, en effet, un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. C'est pourquoi d'ailleurs la Ve République s'était dégagée vis-à-vis d'Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noués avec cet État.
Oui, enfin, la rupture a quand même été une surprise pour Israël, qui mettait en symétrie le personnage de Ben-Gourion et le personnage du général de Gaulle. Un an après, la situation s'aggrave encore, parce que Israël réplique à un attentat commis à Athènes en attaquant l'aéroport de Beyrouth au Liban, pays traditionnellement lié à la France. Et sur cet aéroport sont détruits plusieurs appareils qui appartiennent à une filiale d'Air France.
Oui, c'est ça. Et donc, en réaction à cette attaque, le général de Gaulle est furieux et il va décréter un embargo total.
Alors là, ce n'est plus l'embargo sélectif, c'est l'embargo total. L'embargo sélectif ne concernait pas, n'oublions pas nos vedettes, les 5 vedettes qui restaient là dans le chantier, voire même les 7 qui restaient. L'embargo total, alors là, c'est beaucoup plus problématique. Il y en a 2 qui sont quasiment finies. Là. Elles sont finies, la 6 et la 7.
La 6 et la 7 sont en phase des décès en mer. Et donc, dès l'annonce de cet embargo, vont s'enfuir.
Alors, il a fallu quelques heures pour que l'administration freine fassent semblant de ne rien voir. Le lancement a lieu. Ils disent partir en essai, les Israéliens,
oui,
et ils ne reviennent jamais.
Oui, alors en fait, le général de Gaulle voulait que cette décision d'embargo reste secrète. Malheureusement, il y a plusieurs fonctionnaires qui ont prévenu le chef de la mission d'achat, l'amiral Limon, qui va aussitôt appeler Cherbourg et dire de faire partir les vedettes en urgence.
Alors là, nous sommes sous le règne du général de Gaulle. Quand le général de Gaulle est battu au référendum d'avril 69 et qu'il est remplacé par Georges Pompidou, certains espèrent que la position de Paris va changer, qu'on va revenir à l'embargo sélectif, mais le nouveau président maintiendra toujours la même position.
Gilles Kessaré du Maariv de Tel Aviv. Lors de votre conférence de presse le 10 juillet, vous avez parlé de l'éventualité d'un retour à l'embargo sélectif en ce qui concerne Israël. Un an après, qu'en est-il ?
Monsieur, depuis un an, en effet, il ne se passe pas de jour ni de semaine où quelqu'un ne dise ou ne se demande si notre politique en matière d'embargo se modifie, va se modifier, s'est modifiée. Et les questionneurs et les informateurs sont infatigables. Ils me font penser à ces gens qui appellent éternellement le même numéro de téléphone et qui ne sont pas découragés parce que le disque leur répond « Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé ». Eh bien, monsieur, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé.
Alors, le point de vue du président de la République n'est pas partagé par tous les députés de la majorité, en particulier pas par le député-maire de Cherbourg. Le député-maire de Cherbourg, il est assez ami avec Félix Amiot.
Oui, oui, il est...
Le constructeur.
Il est ami avec le deuxième employeur de sa ville et s'inquiète bien sûr de la santé industrielle de sa ville.
Et sur les ondes de Radio France Cherbourg, parce qu'il y a un Radio France Cherbourg à l'époque, voici ce que déclare le docteur Jacques Hébert.
Tout le monde sait la position que j'ai prise en ce qui concerne le problème d'Israël. Personnellement, je pense que cet embargo n'aurait jamais dû être créé, que cet embargo nous a fait un tort considérable à nous qui avons une défense nationale et qui, parce que nous sommes indépendants et tous les pays qui ont une défense nationale sont obligés de fabriquer leurs propres armes et comme les armes coûtent très cher, il est donc nécessaire d'en vendre et nous avons toujours fait confiance au peuple pour disposer d'eux-mêmes et je considère qu'il y avait une question de principe que c'était faire mettre l'embargo sur les armes à destination du Moyen-Orient, c'était faire une pression très dure puisqu'elle portait surtout sur Israël.
Le docteur Hébert est pro-israélien, enfin, il est surtout pro-Amiot, non ? Parce que M. Amiot, il est quand même en difficulté.
Il est pro-Amiot et surtout pro-israélien. Il appartient à... il fait partie d'Alliance France-Israël. Et donc, il va beaucoup intervenir pour lutter contre cet embargo. Et d'ailleurs, il sera exclu de la majorité plus tard. Suite
donc,
à
il
sa
est
position.
Fidèle à ses idéaux, mais en même temps, aux intérêts de la ville. Alors, M. Amiot, disais-je, il est très mécontent parce qu'il n'est pas payé pour ces vedettes qui
les
restent là en rade.
Les vedettes n'ont pas été payées à l'avance. Il n'y a qu'une partie du marché qui a été payée. Et le chantier, afin d'assurer de l'emploi à ses ouvriers, avance les frais de construction des navires.
Alors il se retourne vers le gouvernement.
Voilà, Félix Amiot va écrire de nombreuses lettres aux différents membres du gouvernement expliquant sa situation, disant que sa trésorerie est gravement... mis en danger par cette avance et il dit qu'il emploie il fait vivre 5000 personnes à Cherbourg et qu'il va bientôt devoir licencier son personnel.
Il peut aussi se tourner vers la COFAS, il y a une instance qui assure les achats et les ventes à l'étranger.
Oui, alors mais en fait la COFAS ne marche pas forcément si c'est l'État français qui crée ces difficultés.
Alors Monsieur Amiot va être content quand l'issue sera trouvé la nuit de Noël 1969.
Oui.
D'ailleurs, dans cette nuit, il fait savoir à sa secrétaire qu'il part pour la Côte d'Azur et qu'il sera injoignable. Juste avant, il aura reçu un chèque, vous l'expliquez dans votre livre, Justin Le Carpentier, pour les paiements qui restent à faire sur les vedettes. C'est que les vedettes sont parties un petit peu avant. Monsieur Amiot, à 2h du matin, alors que les conditions météo sont mauvaises, que la mer... et formé, l'ordre de départ a été donné par un amiral dont vous nous confiez tout à l'heure le nom, Limon.
L'amiral Limon, oui.
Qui est le chef de la mission d'achat israélienne en France.
There are four motors, each boat, Chaque vedette avait 4 moteurs de 2000 chevaux chacun. Vous imaginez le bruit terrible quand ça démarre ? Je cherchais quel était le bon moment pour faire sortir les vedettes du port. Comme on approchait de la fin de l'année, je me suis dit, Noël, c'est parfait. C'est une période creuse, tout le monde sera en vacances. Alors j'ai dit aux équipages, synchronisez vos montres. Et les 5 bateaux ont déclenché leurs moteurs en même temps.
Vita la Cambuse, poemus saillons, va querir pour nous mon sac à ripaille. Et faitons tous aussi le gai réveillon, et buvons un coup devant que l'on crève. Noël, c'est Noël, vivons notre rêve. Noël du pays, Noël de la terre, au petit clocher si grand pour mon cœur. J'aime ta douceur, j'adore ton mystère. Noël de chez nous, Noël de bonheur.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Justin Le Carpentier qui a publié Rapt à Cherbourg, l'affaire des vedettes israéliennes qui est évoquée dans un documentaire de France 3 ce lundi 16 avril à 23h15. Oui, Jacques Sigal a considéré que bien que n'étant pas né à l'époque où tous nos Noëls étaient ornés par les chansons de Tino Rossi, il n'y avait pas de raison que vous soyez néanmoins épargné. Alors, nous sommes le 25 décembre au matin. Monsieur Pompidou, le président de la République, est à Cajar. Monsieur Chaban-Delmas est sans doute dans sa maison du Pays Basque. C'est le Premier ministre. Les journalistes à Cherbourg, vous allez nous expliquer combien ils sont, pour quels organismes de presse ils travaillent. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de vedettes à quai.
Oui, les journalistes découvrent ça le lendemain. Certains le savaient même avant qu'ils allaient partir. Parce que les journalistes étaient un peu dans la confidence.
Comme les renseignements généraux, qui n'étaient pas dans la confidence, mais qui avaient repéré les choses, qui avaient fait des rapports, qui n'étaient pas remontés dans les hiérarchies. Mais restons-en aux journalistes. Alors, il y a deux journaux.
Alors, à Cherbourg, il y a deux quotidiens. Donc, il y a La Presse de la Manche, qui est un journal purement cherbourgeois, et il y a Ouest France, qui est son concurrent.
La Presse de la Manche, c'est un journal purement Amiot. Monsieur Justine Annie, qui en est le patron, est un ancien employé d'Amiot.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et alors ?
Et alors, il s'est mis d'accord avec Félix Samiot de ne pas parler de ce marché pour ne pas perturber l'économie locale.
D'accord. Alors, il menace sans doute tel ou tel de ces journalistes qui veut annoncer la nouvelle, de le faire passer au tribunal de sa propre personne pour faute professionnelle grave. Mais il y a un journaliste de la Presse de la Manche et puis un autre du quotidien concurrent, Ouest France, qui vont se dire, au bout de 24 ou 36 heures de réflexion quand même...
Oui, il est temps de faire sortir l'affaire, ça ne pourra pas rester longtemps à Cherbourg. Donc c'est deux journalistes, il y a donc M. Guy Mabir de la Presse de la Manche, qui va être le premier à en parler, et qui est correspondant en particulier pour le Daily Telegraph. Il avait déjà fait circuler un article sur la situation des vedettes avant. Oui. Et André Lemel de Ouest France qui va lui distribuer à toutes
Il va d'abord distribuer à l'AFP parce
qu'il est correspondant, voilà.
Et puis après ça va se répercuter et toutes les agences le 27 au matin annoncent la nouvelle.
Voilà, et il le fait suffisamment tard pour assurer le scoop à son journal.
Oui, et à la une de Ouest France, alors que la Presse de la Manche est silencieuse, l'affaire des vedettes.
Voilà.
Ce sera fâcheux, c'est juste une parenthèse pour
Presse de la Manche. Oui, la Presse de la Manche, c'est l'un de ses plus grands ratages.
Oui. Et à qui appartient la Presse de la Manche maintenant ?
À Ouest France.
Alors, les médias s'emballent très vite, il faut dire que c'est drôle, que l'opinion dans sa majorité, c'est un peu difficile à comprendre aujourd'hui où le climat a changé, est dans la plus grande sympathie vis-à-vis d'Israël. Et puis c'est Noël.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de sujets à traiter. La presse britannique rigole beaucoup.
Oui. Toutes les presses rigolent beaucoup. Pour le...
Et le Canard enchaîné, en particulier le mercredi qui suit. Alors voici comment à la télévision réagit le préfet maritime. Alors, il y a plusieurs préfets maritimes et il en siège un pour la première région maritime, c'est ça ?
Oui,
Cherbourg. Cherbourg, il s'appelle le vice-amiral Henri Rousselot, le 27 décembre.
C'est une affaire privée, autrement dit, elle ne concerne pas la préfecture maritime, puis voilà.
Quel est le rôle de la préfecture maritime ? C'est un rôle militaire ?
Oui, absolument, oui.
Oui, et les vedettes étaient placées sous le régime civil ?
Absolument.
On dit aussi que les services de sécurité navale ne se sont pas rendus compte du départ des bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, la sécurité navale n'existe plus. Ça vous paraît peut-être surprenant, mais c'est comme ça.
Ah bon, parce que j'ai lu quelque chose dans un journal où l'on disait les gens de la sécurité navale se sont rendus compte à je ne sais pas quelle heure du matin que les navires avaient disparu.
Oui, tout ça, c'est des romans.
Bon, alors, il n'existe pas de sécurité navale.
Mais non, la sécurité navale, c'est un organisme de renseignement qui n'a plus ce nom, en tout cas.
Il n'a pas surveillé les bateaux.
Mais non, je vous dis que cette affaire ne nous concerne pas.
Oui, ça a donc été purement commercial de A à Z.
Ben voilà.
Pour le préfet maritime, ce sont des navires civils que ces vedettes. Alors, comment sont-elles devenues, parce qu'il a peut-être raison, légalement, des navires civils, ces cinq vedettes de Cherbourg ?
Alors déjà, c'est au moment du contrat, Israël ne commande pas des navires, il commande des coques, c'est-à-dire des navires qui peuvent naviguer mais qui ne sont pas armés militairement. Et donc, ils peuvent être assimilés à des navires civils. Et surtout, à la suite du départ des vedettes 6 et 7, l'arsenal a reçu des remontrances de Paris très fortes et a décidé d'exclure les Israéliens et leurs navires de ces installations et de ne plus du tout s'occuper de ce marché-là.
Donc les marins israéliens, maintenant, ils sont en civil.
Voilà.
Le préfet maritime ne veut plus s'en occuper.
Il ne veut plus en entendre parler.
On apprend le 27 décembre que le 15 octobre précédent a été créé ex nihilo, selon le droit panaméen, une société qui serait propriétaire dorénavant des cinq vedettes.
Oui, alors c'est la société Starboat. C'est une société qui a été créée de toutes pièces à Panama pour cette opération de récupération des vedettes par un homme d'affaires israélien qui va monter rapidement une société. À Panama, c'est facile. En 12 heures, avec un peu d'argent, on peut monter une société.
Cette société n'a jamais fait d'opération à la date du 25 décembre 69. Elle est dirigée par un Israélien dont vous dites qu'il est un peu lié au Mossad. Et oui. Elle a un représentant...
Norvégien.
Ah, et pas n'importe qui, une grande société norvégienne.
Alors, c'est M. Martin Sim. C'est le dirigeant des chantiers Akers en Norvège. Et la société dispose aussi d'une boîte aux lettres Oslo pour paraître plus norvégienne, entre guillemets.
Et alors, donc, c'est cette société qui a racheté
les vedettes, oui.
Les vedettes. Mais attendez, il n'y a quand même pas une commission qui s'occupe de l'exportation des matériels à moitié militaire ou complètement militaire ?
Si, si, il y a une commission. Alors, en fait, donc Félix Samion est toujours ennuyé avec ses navires et... Un beau jour, un homme arrive et lui dit « J'ai besoin en urgence de cinq navires correspondant parfaitement aux caractéristiques des vedettes. » Félix Samiot est tout à fait ravi, il transmet immédiatement à cette commission la demande. Les Israéliens disent « Pas de problème, on ne veut plus des navires, on vous les cède. » Et la décision se fait rapidement.
Et dans la commission sont les représentants de tous les ministères concernés qui n'ont vu que du feu et ont trouvé que cette société mi-norvégienne, mi-panaméenne présentait les meilleures garanties. Voici que maintenant intervient, interrogé par les journalistes le 28 décembre, le porte-parole du ministère norvégien des Affaires étrangères.
Les informations nous avons obtenu, confirme que 5 bâtons est vendu à un armateur norvégien.
Est-ce que cet armateur existe ?
Non, cette firme n'est pas enregistrée en Norvège.
Il n'est pas enregistré en Norvège ?
Non. Cette firme a sa siège capitale à Panama.
Donc le gouvernement norvégien ne reconnaît pas officiellement ces 5 bateaux.
Non.
Absolument pas.
Absolument pas, non.
Selon les Israéliens, il y a forcément eu des complicités françaises.
C'est une société inconnue du Panama qui n'a qu'une boîte postale à Oslo, quoi. C'est la première chose qu'ils auraient dû découvrir. Et il y avait le ministère de la Défense, le ministère des Finances, le ministère des Affaires. Tous les ministères étaient concernés. Et s'ils ont donné leur accord pour la vente d'armes à ce genre de boîte postale bizarre, c'est qu'ils étaient complices.
Avi Primor, qui alors était le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. C'est votre point de vue. Il y a des complicités.
Oui, c'est sûr.
Est-ce que c'était des amis d'Israël qui étaient les complices? Peut-être pourra-t-on répondre tout à l'heure à la question. Racontons d'abord la traversée, parce qu'ils sont partis un instant sous pavillon norvégien, puis nos 5 vedettes avec des marins israéliens à bord rejoignent peu à peu via Gibraltar Israël. Sous quel pavillon?
Alors, ils naviguent sous aucun pavillon.
C'est possible, ça?
C'est possible,
c'est dangereux.
C'est possible, mais c'est très dangereux. On peut être arraisonné par n'importe quel navire qui peut suspecter un acte criminel.
Alors, c'est d'ailleurs ce que pense le ministre français de la Défense, Michel Debré, qui dit qu'il n'y a qu'à les pilonner.
Oui. Le souci, c'est que les navires ont déjà été retrouvés par les journalistes et détruire des navires civils non armés par l'aviation française aurait eu un effet désastreux pour l'image de la France. C'est ce que Chaban-Delmas va faire comprendre à son ministre de la Défense et il va annuler l'ordre d'attaquer les navires.
Les 5 navires arrivent en Israël, non sans avoir été survolés un moment par des avions français pendant 3 heures de rang. L'accueil est chaleureux le 31 décembre.
L'accueil est triomphal, toute la presse internationale est là.
Moshe Dayan, le ministre israélien,
vient accueillir en personne les marins. Il y a une grande conférence de presse. On arrête même le conseil des ministres israéliens pour fêter l'événement.
Alors la France fait le dos rond au fond et dit on ne va pas communiquer davantage. On suspend les responsables de la commission dont vous disiez les mérites tout à l'heure. Et puis après, on ne fait plus rien.
Oui. Le Conseil des ministres se clôt en disant que la France ne fera plus aucune réaction sur cette affaire.
Oui, mais attendez, prêtez attention. Aussi un papier de la fin de la crise à TF1 sur les réactions dans les pays arabes.
Gardons-nous de tomber dans le nouveau piège qui nous est tendu par le sionisme international, adjure l'éditorialiste du quotidien libanais du soir, Lisan El Hal, tandis que l'officieux du Koweït, Assi Assa, souhaite que cette affaire se réduise, en fin de compte, à un accident de parcours dans les relations franco-arabes. Car, ajoute-t-il, si par malheur de tels incidents se répétaient, le prestige de la France auprès des pays arabes en serait affecté, les peuples arabes ne pouvant plus alors prêter foi aux décisions d'embargo prises par la France sur les armes à destination d'Israël.
Et écoutez toujours, nous sommes maintenant 15 jours seulement plus tard, nous sommes à Tripoli avec Jacques Abouchard, mi-janvier 70.
Dans la presse libyenne, le grand sujet de conversation, bien entendu, les livraisons de Mirage français à la Libye. Ces futures livraisons n'ont pas suscité de grands commentaires. Il y a eu toutefois une réaction du ministre libyen des Affaires étrangères qui a déclaré en substance, en acceptant de livrer des Mirages à la Libye, la France est devenue une amie de notre pays.
Alors c'est quand même très étrange, on a l'impression que la page israélienne, lourde de malentendus,
oui,
on veut la tourner vite.
Très vite, c'est le point final de l'histoire entre la France et Israël pour les livraisons d'armes.
Et alors la page Kadhafi, elle est vierge.
Voilà, elle s'ouvre avec un immense marché très lucratif pour la France.
Oui, parce que Kadhafi est arrivé au pouvoir en septembre 69. Mais il achetait où le pouvoir libyen avant lui?
Alors, avant, le pouvoir libyen venait de passer une énorme commande à l'Angleterre et qui a été immédiatement annulée par Kadhafi pour la repasser à la France.
Il y a quelque chose que vous ne nous avez pas dit, quoi, vous êtes attaché, c'est qu'est-ce qu'il est advenu à Cherbourg après le départ des vedettes?
Alors, ce départ a fait une publicité énorme au chantier, gratuite en plus. Félix Samyo va recevoir dès l'année 70 une vingtaine de commandes de navires du même type.
Il avait eu 12 vedettes israéliennes, après
20
vedettes qui vont changer de nom.
Oui. Voilà, qui vont devenir le modèle des combattantes 2. Et donc la Grèce en commandait, la Malaisie, la RFA, l'Iran.
Ne me dites pas quand même que la Libye va commander...
Si, plus tard, au début des années 80, la Libye va être livrée de vedette.
Après la mort de M. Amiot.
Voilà.
Est-ce que votre père vous raconte ça, qu'il avait formé les équipages libyens ?
Oui, oui, il m'en parle beaucoup. Ça a été une formation assez particulière, puisqu'il n'avait pas tout à fait les mêmes notions techniques.
Merci à vous, Justin Le Carpentier.
C'est moi qui vous remercie.
Ce soir, sur France 3, à 23h15, l'affaire des vedettes de Cherbourg et aux éditions L'encre de Marine, votre livre. Rapt à Cherbourg, Camille Poux, Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard, Sandrine Laurent, Nicolas Slimani. Il est 14h.